Le débat du jour, Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute des RFI. Ce soir, nous nous intéressons au bizutage. Le bizutage est devenu un délit en France depuis 20 ans lorsqu'il porte atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne. Le bizutage est considéré comme un délit aux yeux de la justice française, passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Et pourtant, les week-ends d'intégration perdurent. Le petit nouveau initié par l'ancien, ce serait même une spécialité française, notamment dans les grandes écoles, les écoles de commerce ou les facultés de médecine. Quelques jours après la rentrée, il est courant d'organiser des week-ends dits d'intégration qui virent parfois à la désintégration.
RFI.
Alors pourquoi ce rituel perdure-t-il? Quels sont les dangers du bizutage? Pourquoi l'omerta règne autour du sujet? La loi est-elle appliquée? Telles sont les questions que nous nous posons ce soir sur RFI. Bon. Autour de la table, ici à Paris, Françoise Mougin, secrétaire générale du Comité national contre le bizutage. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et Maxime Rougeau, porte-parole de l'UNI. Vous êtes étudiant, l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, tout simplement, quelle est votre définition du bizutage, par exemple Françoise Mougin?
Nous reprenons la définition de la loi. Le bizutage, c'est le fait d'amener autrui à commettre, contre son gré ou non, des faits qui portent atteinte à la dignité humaine, à l'intégrité de la personne, et également de l'amener, contre son gré ou non, à une consommation excessive d'alcool dans le milieu scolaire, universitaire et sportif. Voilà.
Maxime Rougeau, cette définition vous va? Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, alors la définition nous va, mais c'est vrai qu'on aimerait l'amener, enfin juste sur un point qui est le côté un petit peu théorique de la loi, sur justement la question du consentement qui rend la définition du bizutage quand même assez difficile à caractériser. Eh bien, prenons l'exemple, c'est simple. Imaginons que lors d'un bizutage entre guillemets pour certains ou d'autres pour d'autres non. Je mets dans un verre de la moutarde, du chili, de la sauce soja, etc. Et je demande à un élève de le boire. Il y en a un qui me dit oui, pas de problème, je le bois. Est-ce que c'est du bizutage? Et il y en a un autre derrière qui me dit non, je veux pas le boire. Et je lui dis mais si, vas-y, bois-en. Est-ce que c'est du bizutage? Et la question se pose comme ça. Est-ce que justement le premier qui a dit moi j'ai pas de problème, je peux le boire, la question c'est le consentement. Il était consentant. Est-ce que ça reste justement du bizutage?
Françoise Mougin.
Oui. Alors il y a un élément très important dans le bizutage. Dans le bizutage, c'est toujours les anciens contre les nouveaux. C'est les anciens qui imposent leur volonté aux nouveaux. Et le législateur qui a mis dans la loi contre son gré ou non a été habile. Parce que quand on est nouveau, quand on arrive dans une école, on ne connaît rien, on est fragile, on est déstabilisé et on n'a qu'une envie, c'est s'intégrer au plus vite, connaître et se faire des amis. Et donc, dans le fond d'eux-mêmes, certains ne veulent pas y aller. Mais ils y vont parce que, justement, c'est cette envie de s'intégrer, l'envie de faire comme tout le monde, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de rentrer dans un groupe par d'autres moyens.
Est-ce aussi un petit peu parce qu'ils ont vécu le bizutage, ils ont été bizoutés jeunes, que lorsqu'ils passent un petit peu plus anciens ou âgés, eux aussi, à leur tour, veulent bizuter les nouveaux? Comment vous expliquez que cette tradition, ce rituel perdure?
Alors, il y a deux cas de figure. Il y a effectivement ceux qui se vengent un petit peu de ce qu'ils ont subi l'année d'avant. Et puis, il y a également ceux, et ça c'est nouveau depuis 2-3 ans, nous avons des étudiants qui nous appellent au mois d'avril, mai, en nous disant, écoutez, l'année dernière, moi j'ai été bizutée, l'année prochaine, je suis une deuxième année, comment je peux faire pour sortir de ce cercle infernal? Donc, il y a une prise de conscience, malgré tout, au niveau des étudiants, maintenant.
Vous posez aussi donc la question des victimes qui ont du mal à faire remonter l'information, à se plaindre, à aller même voir la justice.
Alors, bah déjà, il y a un vrai problème d'omerta au sein des associations, tout d'abord, puis ensuite des universités ou des écoles, parce que à la fois les étudiants ont un peu peur d'aller dénoncer leur père, et ont peur aussi des répercussions qu'il pourrait y avoir à leur encontre. C'est voilà, et c'est vrai que d'un autre côté, on voit beaucoup de chefs d'établissement qui participent à cette omerta de façon directe ou indirecte, parce qu'ils veulent préserver justement la réputation de l'école, garder un très bon contact avec les associations d'étudiants qui leur permettent d'avoir une majorité quand il y a des décisions à prendre. Donc voilà, ils veulent pas se mettre de gens à dos. Et ça, c'est un vrai problème aussi aujourd'hui.
Françoise Mougin.
Alors, je suis tout à fait de votre avis, mais il y a un autre élément. Parce que nous, notre comité, nous recevons des témoignages, des gens qui nous appellent. Il est extrêmement difficile pour un jeune de mettre des mots sur ce qu'il a subi. Il a tellement honte de ce qu'on l'a amené à faire que de le dire, c'est hyper difficile. On a eu des témoignages au téléphone toujours, parce que c'est facile, le téléphone, ça maintient l'anonymat. De gens qui nous disent « Ah, je vous ai vu ou je vous ai entendu lors d'une émission, je vous appelle, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 15 ans. » Je n'en avais jamais parlé. Et dans les établissements où le chef d'établissement, en début d'année, prend position clairement et dit « Si vous avez quoi que ce soit qui vous gêne, vous venez me trouver, n'hésitez pas. » Si quand nous, on intervient dans un établissement et que les chefs d'établissement parlent de la même voix que nous, c'est déjà un peu plus facile. Et les risques de dérapage diminuent.
Alors là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que, par exemple, il y a aussi le côté de sanctions. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs fois que, justement, l'affaire était un peu étouffée, que les sanctions n'allaient pas assez loin. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, justement, que des sanctions lourdes sont prises lorsqu'il y a vraiment une catastrophe, c'est-à-dire un élève qui décède ou voilà, une atteinte physique à un étudiant, pour ne pas reprendre l'étudiant qui avait été marqué à l'aide d'une capsule dans le dos à Dauphine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir des sanctions lourdes, à la fois pour que les étudiants qui sont victimes de ces bizutages se disent il y a des vraies sanctions derrière, et aussi pour que les victimes de ces bizutages et les familles puissent avoir un rétablissement psychologique plus facile.
Alors la loi, en l'occurrence de 1998, initiée par Ségolène Royal à l'époque, prévoit 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. En l'occurrence, juste avant, pour comprendre, j'avais une autre question d'un point de vue sociologique. Comment expliquez-vous que ça se passe souvent dans des milieux sociaux assez élevés? On parle de fac de médecine, de grandes écoles. Françoise Mougin.
Je vais vous répondre par ce que m'a répondu un étudiant sur le salon de l'étudiant. Je m'étais fait passer pour une grand-mère et me prenais dans tous les stands pour leur demander, bien sûr, si dans leur établissement il y avait du bizutage, parce que il y avait du bizutage nulle part. Mais non, il n'y en a pas. Et je suis tombée sur les arts et métiers, mais les arts et métiers qui font des cours du soir. Et à côté, il y avait des universitaires, en fac de droit ou de lettres, je ne sais plus. Donc je leur pose la question. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais attendez, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas les moyens de faire du bizutage. Nous, on bosse. Et c'est vrai que dans les grandes écoles de commerce, et en plus, je vais être très, très sévère, mais beaucoup d'élèves, vu la situation de leurs parents, pensent qu'ils jouissent d'une certaine impunité, que papa, maman pourra toujours intervenir en cas de dérapage. Je pense que ça répond à votre question.
Et vous, au nom de l'UNI, Maxime Rougeau?
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, pour répondre aussi là-dessus, c'est le côté aussi de l'argent. Forcément, quand on a de l'argent, c'est plus facile d'avoir de l'alcool. Et l'alcool, aujourd'hui, c'est l'un des principaux problèmes qui justement va vers le bizutage. On voit bien que la plupart des accidents, des bizutages, des décès sont liés à l'alcool dans les week-ends d'intégration, ou même par exemple lorsqu'on veut rentrer dans une association, il y a aussi l'alcool parfois qui entre en compte.
Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange.
Avec Maxime Rougeau, porte-parole de l'UNI, Françoise Mougin, secrétaire générale du Comité national contre le bizutage. Une charte sous l'impulsion de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a été signée par l'ensemble des syndicats d'étudiants. Une charte donc pour éviter, pour venir consolider peut-être la loi de Ségolène Royal en 1988. Tout d'abord, que nous dit cette charte, Françoise Mougin ?
Elle vient pas consolider, elle vient concrétiser ce qu'il faut mettre en place dans chaque établissement. Parce qu'on n'est pas contre les week-ends d'intégration, on n'est pas contre la fête. Ce qu'il faut, c'est limiter les dégâts et qu'on n'ait plus, comme il y a 15 jours, là, un décès. C'est triste de mourir à 18 ans. Donc cette charte, elle va obliger les associations d'étudiantes qui mettent en place des événements festifs, même si c'est pas de l'intégration, même si c'est pas de l'accueil, de l'accueil plutôt, à mettre en place tous les moyens pour sécuriser l'événement.
En l'occurrence, je me tourne vers vous, au nom de l'UNI, vous l'avez signée cette charte.
Oui, exactement, parce qu'on est tout à fait favorable à ce que la charte dénonce, c'est-à-dire qu'il faut plus de prévention, accompagner beaucoup plus les associations, les élèves justement à organiser des soirées dans de bonnes conditions.
En l'occurrence, parlez-nous concrètement la prévention.
C'est simple, par exemple dans la charte, il est stipulé à certains endroits, voilà, ce qu'il faut mettre en place pour éviter les, enfin en tout cas, parce que le risque zéro n'existe pas, pour en tout cas éviter au maximum les risques, c'est-à-dire un service d'ordre, un service de santé, enfin de sécurité, excusez-moi, j'ai pas le terme exact là en mémoire, mais voilà, enfin il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui sont noté dans la charte et que les étudiants voilà peuvent cocher pour eux-mêmes en se disant est-ce que j'ai bien mis ça en place. Et aussi d'un autre côté, c'est pour les chefs d'établissement et l'administration, c'est de se dire est-ce qu'ils ont bien mis ça en place, est-ce que s'ils l'ont pas mis en place c'est quand même ma responsabilité de le dire, c'est quand même moi qui suis garant de la sécurité des étudiants, que ce soit sur le sol, et ça c'est faut bien qu'ils le comprennent, les chefs d'établissement, ils sont garants de la sécurité des étudiants sur le sol de l'établissement, mais aussi lorsqu'ils sont à l'extérieur, dans le cadre associatif. Et ça, nous on tient vraiment à le rappeler. Le problème aussi de la charte, c'est que ce n'est qu'une charte malheureusement, et que au niveau juridique, au niveau du cadre légal, ça reste assez inexistant en fait. C'est bien de la signer, mais il faut voir sur le terrain des choses qui s'accomplissent. Et voilà, et par exemple en parlant des sanctions, nous on avait vraiment axé notre réflexion sur la prévention d'un côté, mais les sanctions de l'autre. Et bien rappeler aux associations, lors de la prévention, quels sont les risques encourus, et aux chefs d'établissement, pareil. Et voilà, et on veut aller plus loin aussi, c'est de dire, les fédérations et les associations qui ne respectent pas les règles et qui bizutent doivent être sanctionnés pénalement, mais aussi, qu'elles doivent être dissoutes.
Françoise Mougin.
Oui, nous, au Comité national contre le bizutage, depuis le début, on réclame que dans tous les règlements intérieurs des établissements figure le rappel de la loi et les sanctions que vont prendre les établissements envers les élèves qui bizutent.
En l'occurrence, est-ce que les sanctions sont prises ?
Alors, les sanctions sont prises, oui et non. À Dauphine, elles ont été prises.
Parce qu'il y avait...
Le président de l'université, il a tout de suite réuni le conseil de discipline. Il y a des élèves qui se sont fait mettre à la porte. Donc, on n'est pas au courant de tout, parce que, comme on dit, c'est l'omerta. Donc, nous, on connaît que ce qu'on peut lire dans la presse ou ce qu'on peut nous dire. Nous, on ne sait pas tout. Mais cette charte, elle est très bien. Mais il faudrait comme... Alors, si, il est bien stipulé que si on ne l'inspecte pas, l'établissement peut demander le remboursement des sommes allouées pour la fête, peut interdire de locaux les BDE, ce qui est quand même pas rien.
Le bureau des élèves, hein, des étudiants.
Des étudiants. Mais il faut que ce soit clairement dit. Dans les établissements où le chef d'établissement a dit s'il y a du bizutage, moi je mets les élèves dehors, je ne citerai pas l'établissement, mais il y en a, je peux vous assurer qu'il n'y a plus de bizutage.
Alors depuis 2010, la justice française aurait condamné 34 personnes seulement, si j'ose dire, pour délit de bizutage, une loi qui est difficilement applicable. Dites-nous quelles sont aujourd'hui vos préconisations. Est-ce que ça passe forcément par les sanctions? Vous nous avez parlé des préventions. Est-ce que la loi est nécessaire? Est-ce qu'il y aurait autre chose? Est-ce qu'on peut réinventer aujourd'hui le bizutage?
Non, le bizutage, il est fait pour accueillir. On peut imaginer quand même d'autres façons de dire aux premières années, entrez chez nous, c'est bien, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Et Dieu merci, il y a plein d'établissements où ça fonctionne bien, où les week-ends d'intégration, ce sont de vrais week-ends d'intégration. Donc il faut tout, il faut faire de la prévention, il faut informer les élèves de ce que c'est que le bizutage, parce que on a rencontré des élèves d'une très grande école la semaine dernière. Ils étaient persuadés que si on leur disait vous n'êtes pas obligés, bon voilà, et puis oh, c'est bien gentil, c'est pas bien méchant. Non, l'humiliation, elle ne se mesure pas. Il n'y a pas d'échelle pour mesurer l'humiliation. Donc, si vous voulez, si ce qui est humiliant pour l'un l'est pas pour l'autre, donc interdiction de tout ce qui est hors la loi. Le bizutage, non.
Et vous n'êtes pourtant pas contre la fête?
Ah, surtout pas, surtout pas.
Absolument pas. Après, voilà, nous, c'est pour rebondir à ce qui a été dit, c'était l'exemple que je prenais avant, c'est-à-dire, voilà, pour un, c'est du bizutage, pour l'autre, non. Et le problème des sanctions, pour revenir dessus, c'est vrai qu'on voit que lorsqu'il y a un acte grave, un décès, un acte violent, physique, oui, c'est dénoncé parce que les personnes portent plainte, voilà. Alors que quand on va voir parfois le chef d'établissement ou l'administration, tout de suite, c'est assez vite étouffé. Et c'est pour ça que nous, on veut vraiment demander au chef d'établissement de prendre leur responsabilité là-dessus, parce qu'ils sont ils sont un acteur justement de la prévention.
Et enfin, vos rôles respectifs pour lutter contre le bizutage, on vous appelle, vous faites quoi par exemple?
Alors,
vous,
nous,
Françoise Mougin, au nom du comité national contre le bizutage?
On reçoit par exemple, on reçoit des témoignages, donc on n'est pas des psys, on n'est pas des sociologues, on aide les gens, on leur dit ce qu'il conviendrait de faire, on les aide à parler, on est en travail serré avec les ministères, on appelle les chefs d'établissement pour qu'ils mettent un petit peu... Quand on est prévenu en amont, ben quelquefois, on fait intervenir et interdire un bizutage qui va avoir lieu, parce que quelquefois, c'est clair, ça va être du bizutage. Et puis, on accompagne aussi tous les établissements qui nous demandent de venir parler aux étudiants du bizutage, leur expliquer ben, les limites de la fête et surtout... respecter l'autre. Il faut avoir des valeurs, il faut respecter l'autre. Et puis j'insiste, limiter la consommation d'alcool. Parce que sans alcool, qui est un fort des inhibiteurs, il y aurait déjà beaucoup moins de dérapages.
Et vous, au nom de l'UNI, pour conclure, vous faites quoi pour lutter contre le bizutage?
Alors nous, c'est vrai que notre rôle est complètement différent, parce que déjà, nous ne sommes pas une fédération d'associations qui organise des soirées. Donc nous, notre rôle, c'est vrai qu'il est assez compliqué à vraiment concevoir sur le terrain, parce que on a des gens qui viennent nous voir de temps en temps pour nous expliquer, voilà, j'ai subi ça. Donc on leur dit, va voir l'administration, va voir le chef d'établissement, et si ça ne suffit pas, quand c'est vraiment des faits graves, porte plainte, parce que là, au moins, il y a quelque chose d'écrit et ça va sortir. Après voilà, nous, on lutte sur le terrain en disant qu'il faut vraiment des sanctions et que les associations doivent être dissoutes lorsqu'elles pratiquent le bizutage.
Ce sera le mot de la fin, signé Maxime Rougeau, porte-parole de l'UNI, l'Union Nationale Interuniversitaire. Merci Françoise Mougin, secrétaire générale du Comité National contre le bizutage. Merci à vous, que vous soyez sur la planète, de nous avoir écoutés. Dès lundi, retour de Guillaume Nodin derrière ce micro, nous nous intéresserons aux élections brésiliennes.